temps, tandis que la science philosophique d'Aristote recherche les causes. Il est bien évident que dans l'antécédent et le conséquent, il y a un lien causal. Il y a un lien causal. De l'antécédent va sortir le conséquent. Donc il y a un lien causal. Mais comprenons bien la différence. C'est qu'au niveau philosophique, j'analyse les diverses causes. La cause matérielle, la cause efficiente, la cause formelle, la cause finale. Donc j'analyse la diversité des causes. Tandis qu'au niveau de la science, jamais. La science ne distingue pas les diverses causes. Elle voit tout simplement un lien d'antécédent et de conséquent. Dans ce lien d'antécédent et de conséquent, il y a un lien de causalité efficiente, c'est bien évident. Il y a un lien de causalité causale, formelle, c'est évident. Un lien de causalité matérielle. Et quelquefois final. Mais je n'analyse pas. Je prends tout simplement la réalité telle qu'elle se présente à moi et je vois comment d'une réalité antécédente va sortir une réalité conséquente. C'est ça que j'appelle la loi. Donc la loi, c'est tout simplement un lien d'antécédent et conséquent au niveau de la nécessité. Ayant posé telle ou telle chose, nécessairement suivra telle autre chose. Oui. Ayant posé telle ou telle chose, nécessairement suivra telle autre chose. Ça, c'est une loi. Je suis devant un rapport, une relation nécessaire, une constante, comme on dit. Une constante. Alors, la loi, vous voyez, ne regarde pas, ne fait pas appel directement à un jugement d'existence. Ça peut suffire. Mais ça ne regarde pas directement. Tandis qu'au contraire, l'analyse philosophique, elle, va regarder la cause comme une source, comme telle source. Cause matérielle, cause formelle, cause efficiente, cause finale. Bon. Voilà la grande différence entre la science et l'art. La science se termine à la connaissance. L'art se termine à l'œuvre. Qu'il y ait une connaissance à l'intérieur de l'art, c'est bien évident. Mais le but de l'art, c'est de réaliser une œuvre. Le but de la science, c'est de connaître. Donc, on peut là préciser la différence entre le point de vue d'une connaissance qui est en vue, d'une science qui est en vue de la science, de la connaissance, et l'art en vue d'édifier quelque chose. L'édification. Bon. Une fois que j'ai posé la différence entre art et science, je peux maintenant poser la question, la logique. Est-elle un art ou est-elle une science? Saint Thomas s'est posé la question, s'est reposé la question ensuite. Saint Thomas dit ceci d'abord, que la logique c'est l'art des arts. C'est l'art des arts. C'est l'art des arts en ce sens que la logique va être un habitus qui va diriger l'intelligence dans son indétermination. Ça va être donc quelque chose qui va permettre à mon intelligence de pouvoir s'orienter de telle ou telle manière. Donc, la logique est un art, hein, vous entendez, ça siffle quand même. Écoutez, non, mais je veux vous montrer.
Oui, ça siffle, et
ça gêne, hein. Dites, c'est les appareils qui gênent, moi je ne dis rien parce que je suis très vertueux, bon. Alors... Mais c'est pour vous, parce que c'est... Non, mais c'est vrai, ça peut être agaçant que ça va entendre ça, ces sifflements. Alors, et puis c'est agaçant pour les autres parce qu'ils les enregistrent. Bon, alors, on se demande si la logique est un art ou une science. On dira, la logique est un art parce que la logique va permettre de déterminer une indétermination de mon intelligence. Si mon intelligence était parfaitement déterminée, j'aurais besoin de logique. C'est parce que l'intelligence implique une certaine indétermination. Une certaine indétermination dans son cheminement, dans sa recherche. Donc si elle implique une certaine indétermination dans sa recherche, la logique va déterminer l'intelligence pour être sûre qu'elle prenne une voie droite. Oui. Alors, vous allez me dire, où est la détermination de l'intelligence? Où se trouve? C'est tout simplement dans le fait que un raisonnement présuppose d'y diverses propositions qu'on relie entre elles. Et donc il s'agit de bien lier ces propositions entre elles. Parce que je peux très bien lier une proposition vraie avec une proposition fausse. Et à partir de là, mon raisonnement sera faux. Vous voyez ? Donc il y a un ordre que j'établis entre les diverses propositions. Je vois bien l'office A de la logique dans le raisonnement. Je peux faire la même chose. Un jugement présuppose toujours le point de vue d'un sujet et d'un individu. Et donc, il faut savoir si le sujet est capable de recevoir cet attribut. L'exemple classique, on prend toujours, le saint Thomas prend toujours les scolastiques à répéter, parce que les exemples se répètent tout le temps. L'antéchrist a été. Vous voyez, l'antéchrist a été. Alors, on dit au point de vue logique, non. L'antéchrist veut dire celui qui viendra. Et donc, je ne peux pas dire il a été. Alors, vous voyez, j'ai besoin de pouvoir connaître ce qu'on appelle au point de vue logique la supposition du sujet. Est-ce que le sujet supposite ? Est-ce qu'il est capable, c'est ça que ça veut dire, est-ce qu'il est capable de recevoir telle ou telle attribution ? S'il est capable de recevoir telle ou telle attribution, très bien. Je peux dire que j'attribue telle chose à tel sujet. L'homme est un âme. Ça peut se dire de temps en temps. Alors, est-ce que c'est logique de dire l'homme est un âme ? Alors, vous êtes en face de la supposition. L'homme, c'est le sujet. Et âme, c'est l'attribut. Alors, est-ce que je peux dire l'homme est un âme ? Si je vous posais la question. Est-ce que je peux dire l'homme est un âme ? Est-ce que, au point de vue logique, c'est juste ? Ou est-ce que c'est pas juste ? Je vous pose pas la question de la vérité. Hein. La question, est-ce que c'est juste ? L'homme est un animal. Souvenez-vous. L'homme est un animal. Mais est-ce que l'homme est un âme ? Vous voyez, c'est là où on voit si vous avez de la logique ou pas de la logique. Donc l'art. L'art qui fait tout de suite comprendre si on peut lier homme et âme. Si je peux lier homme et animal. Vous voyez, j'ai le droit de dire l'homme. C'est pareil, rien, mais c'est important de voir ça. L'homme implique un animal. C'est pour ça que je peux attribuer animal à homme. L'homme implique. Est-ce que l'homme implique un âme ? Non. Il n'implique pas âme. Métaphoriquement, je pourrais dire tel homme, c'est un âme. Politiquement. C'est très poli. Cet homme est un âme. Mais alors, vous voyez, c'est cet homme est un âme. Et c'est pris métaphoriquement. Alors, c'est tout à fait autre chose. C'est plus du tout l'attribution directe. Tandis que lorsque je dis l'homme est un animal, or, vous voyez, je ferai ce raisonnement. L'homme est un animal. Or, l'âne est un animal, donc l'homme est un âne. Très bon raisonnement, ça. Tout homme est un animal. L'homme est un animal.
D'accord.
L'âne est un animal.
D'accord.
Donc, l'homme est un animal. Et pourtant, vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas très bien. Vous avez glissé. Vous savez, c'est toujours comme ça dans les raisonnements. On glisse. On passe du genre à la différence spécifique. Âne implique autre chose que l'animal. Si âne implique autre chose que l'animal, est-ce que je peux le dire par rapport à homme ? C'est intéressant de voir ces problèmes-là, ce que j'ai le droit de contribuer. C'est là où on voit que la logique joue un rôle d'art. Pour édifier intérieurement une proposition, l'homme est un animal, pour que cette proposition, qui est une œuvre, ça n'existe pas dans la réalité, l'homme est un animal. Ce qui existe dans la réalité, c'est des hommes et puis des animaux. Il existe un homme, il existe un âne. Ça existe. Mais mettre l'âne dans l'homme, ça n'existe pas. Et dire l'homme est un animal, ça n'existe pas. Donc c'est une œuvre. C'est une œuvre. Que je réalise à partir de telle matière, l'intelligence que je considère dans sa recherche Et j'unis deux moments d'intelligence, l'homme capable de saisir animal, l'homme capable de saisir pierre. Ou l'intelligence, plus bien, l'intelligence capable de saisir l'homme et l'intelligence capable de saisir animal, capable de saisir âme. Et Jésus dit. Alors, là, on voit très bien comment l'art est nécessaire pour connaître les lois profondes de l'art logique, pour voir si je peux faire cette introduction. Oui. Bon. Alors, je vois que la science, la logique est vraiment un art. Et Saint Thomas dira, elle est l'art des arts. Ça, c'est une très belle formule. Ars, ars. La logique, c'est l'art des arts. Pourquoi? Parce qu'elle est l'art à l'égard de la raison, qui est le principe de tous les autres arts. Et donc, la logique est l'art des arts, parce qu'elle touche la raison, qui est source de tous les autres arts. Et donc, d'une certaine manière, la logique va se retrouver partout dans l'activité de Thénard. Elle est l'art des arts. Je me pose la question, la logique est-elle une science? Alors là, c'est beaucoup plus évident. La logique est-elle une science? La science cherche à établir des lois, cherche à connaître les causes. Saint Thomas nous dit que la logique est aussi une science. Je ne sais pas si Aristote en dit. Ça serait quoi? Saint Thomas le dit. Il dit que la logique est une science. Et pourquoi? Donc, s'il dit que la logique est une science, il va chercher, comme toute science, qu'est-ce que la logique connaît? Qu'est-ce qui est l'objet propre de la logique? Toute science a un objet propre. Et toute science implique une certaine formalisation de cet objet. Alors, quel est l'objet propre de la science? Qu'est-ce qui caractérise la logique comme logique et comme connaissance scientifique? Alors, c'est là où Saint Thomas a inventé, et là, il faut reconnaître que c'est propre de Saint Thomas d'avoir inventé ça, Aristote a connu, ce qu'on appelle l'être de raison. Ça, il faut dire quelques mots sur l'être de raison, c'est impossible. Je n'aurais pas le droit de faire un cours de logique sans vous avoir dit quelques mots sur l'être de raison. Vous allez voir cette bête particulière de ce que c'est que l'être de raison. C'est une chose très intéressante quand on la creuse, quand on la voit rapidement, et du coup, on la voit. N'est-ce pas? Alors, Saint Thomas appelle ça ens rationis. Ens rationis. Raison, être de raison. Vous allez voir un peu ce que ça veut dire. La logique regarde l'être de raison. La logique connaît l'être de raison. Elle est une science en ce sens qu'elle connaît l'être de raison. C'est une science réelle qui connaît un être qui n'est que de raison. Alors, qu'est-ce que c'est que l'être de raison? L'être de raison, vous comprenez, vous pouvez le comprendre de diverses manières. Vous pouvez comprendre l'être de raison si je prends deux raisons en disant un être dont la cause est la raison. Alors à ce moment-là, je pourrais dire une œuvre d'art est un être de raison. L'invention d'un bic, c'est un être de raison. C'est évident, ça coûte pas. Le développement d'être, tout sera pas. C'est pas une œuvre naturelle, c'est une œuvre artificielle. Toute œuvre artificielle est un être de raison. C'est un être de raison. Une œuvre que l'intelligence a fabriquée et a fait. Donc, être de raison en tant que fabriqué par l'intelligence. C'est pas ça que ça veut dire. Quand je parle, par exemple, aussi de ce que peut représenter, si vous voulez, la science est l'être de raison. Fabriquer l'intelligence. Ah, je suis un peu plus proche. L'être de raison veut dire ce dont la cause propre provient de la raison, donc provient de l'intelligence raisonnante, la cause propre, et ce qui ne peut être saisi que par l'intelligence. Donc l'être de raison, c'est ce qui provient de l'intelligence et ce qui est saisi par l'intelligence. Je vais vous donner tout de suite un exemple pour que vous compreniez mieux. L'être de raison, c'est l'universel. L'universel est un être de raison. C'est ens rationis. C'est un être de raison. Alors, qu'est-ce que je veux dire quand je dis que l'universel est un être de raison? C'est que je veux dire que l'universel n'existe que dans la pensée. L'être de raison, c'est celui qui n'existe que dans la pensée. Donc, l'œuvre d'art n'est pas un véritable progrès. C'est une œuvre artificielle, ce n'est pas l'œuvre de raison, parce que l'œuvre d'art existe dans la matière. Tandis que l'universel, essayez de mettre l'universel dans la matière, hein, vous verrez, une soupe universelle. Mais il y a des meubles universels. Mais une soupe universelle, ça n'existe pas. L'universel n'existe que dans l'intelligence. L'intelligence seule possède l'universel, c'est sa supériorité. On voudrait beaucoup que l'universel existe en singulier. Mais l'universel n'existe pas dans le singulier. Le singulier existe en dehors de l'intelligence. Tout ce qui existe en dehors de l'intelligence est toujours singulier. N'existe dans l'intelligence que l'universel. Là, c'est quelque chose qui est très important à saisir. Alors, vous avez un nom universel dessus. Quand vous dites chien, c'est un nom universel. Ça s'applique à des quantités de chiens. C'est un nom universel. Le nom universel chien, il n'existe pas dans la réalité, il existe dans l'intelligence. Le nom avec sa signification chien n'existe pas dans la réalité. Le chien singulier existe dans la réalité, mais pas le nom. Et c'est très curieux de voir ça, parce qu'en fond, on voudra que l'universel soit singulier, le grand désir de Hegel. Faire de l'universel le singulier. Si on pouvait unir les deux, faire qu'à partir de l'esprit, on rejoigne le réel existant, le singulier. En réalité, il y a une coupure entre les deux, une séparation. L'universel, il est. Alors, il y a le nom universel, il y a la pensée universelle, ou plus exactement, le concept universel. On verra ce que c'est que le concept. Hein. Ça peut avoir, pour le moment, accepté. Hein. Le concept, c'est très très lié à la pensée. C'est à l'intérieur de la pensée, quand vous pensez quelque chose. Alors, il y a le concept de le nom qui sont universels, mais la réalité, elle est singulière. Jamais vu palper une réalité universelle. Donc, l'universel, c'est ce qui provient de l'intelligence et ce qui demeure dans l'intelligence. Voilà ce que c'est que l'être de raison. L'être de raison, c'est un être qui provient de l'intelligence et qui demeure dans l'intelligence. Et que seule l'intelligence peut saisir. Je ne peux pas vous le montrer. Il est au-dedans de mon esprit. C'est pour ça que si vous ne le saisissez pas, j'ai beaucoup de peine à vous le montrer. La réalité, on peut la montrer. Je vous montre, voilà ce que c'est qu'un bout de craie, vous voyez bien. Ce que c'est qu'un petit chien, très bien. Et l'universel. Montrez l'universel à un gosse dans son berceau. Alors vous montrez l'universel dans un gosse dans son berceau, vous montrez que l'universel, il est justement uniquement dans l'intelligence. Et il peut exister que dans l'intelligence. Il est reçu dans l'intelligence, il est possédé par l'intelligence, et l'intelligence le secrète. Quand vous pensez quelque chose, alors là, vous voyez, essayons de comprendre. Ça, c'est très important. Il faut essayer, quand on fait la logique, de saisir ce que c'est cet être de raison qui est l'universel. On va revenir. Je voudrais que vous en ayez d'abord une petite saisie, un peu obscure et globale, n'est-ce pas, une petite saisie. Alors prenez un nom, prenez une pensée, et puis prenez la réalité. Et distinguez bien la réalité que vous montrez, le nom que vous prononcez, et le nom a une signification, il peut avoir une signification universelle, il peut avoir une signification particulière. Quand vous dites pierre, vous voulez qu'il y ait une signification particulière. Évidemment, il peut y avoir plusieurs pierres. Mais ça, c'est autre chose. Pierre 1, pierre 2, pierre 3, pierre 4. N'est-ce pas ? Pour les distinguer, ils ont le même nom. On les numérote pour exprimer tel singulier, pour exprimer tel particulier. Mais de fait, le nom possède une signification universelle. Presque toujours. Mais vous précisez, un nom particulier, un nom singulier. Puis, la pensée est universelle aussi. Quand vous pensez ce que c'est que le chien, quand vous pensez ce que c'est que l'animal, vous dites que vous saisissez là quelque chose d'universel. Vous ça, quelque chose universel. Quelque chose qui n'est plus le singulier. Vous l'avez saisi à partir du singulier. Vous l'avez saisi à partir du singulier. Avant de dire le chien, ça vous en avez vu beaucoup. Puis un beau jour, vous avez demandé, quand vous étiez gosse, qu'est-ce que c'est? Ou bien vous avez entendu dire le chien. Azor, Médor. Hein. Et puis au bout d'un certain temps, vous avez compris qu'Azor et Médor, c'était des chiens différents, et qu'il y avait quelque chose de commun dans tous les chiens. Et c'est ce quelque chose de commun qui est dans tous les chiens, vous avez dit à un moment donné, chien. La même chose que dit Aristote, un gosse commence par dire papa, et quand il a dit papa, il dit à tous les autres papa. Et bien un beau jour, il comprend qu'il y a une différence entre son père et puis tous les autres individus. Donc au départ, il universalise. C'est très curieux, ce besoin d'universaliser. L'être de raison. Un second être de raison. L'attribution. Quand vous dites Pierre est philosophe. Pierre est philosophe. Qu'est-ce que vous faites là? Vous liez philosophe et Pierre. C'est l'intelligence qui le fait. C'est un être de raison. Ce qu'on appellera l'attribution. Vous composez ou vous divisez. Pierre n'est pas philosophe. Il a raté son examen. Pierre n'est pas philosophe. Donc vous séparez. Au contraire, vous liez Pierre et philosophe. Et quand vous dites Pierre et philosophe, vous liez philosophe et Pierre. Vous faites une composition. L'être de raison qui consiste à composer ou à diviser. La division est un être de raison. Il n'y a pas de division dans la réalité. Dans la réalité, il y a des réalités autres, autres, autres. C'est l'intelligence qui divise. Vous voyez, pour que vous compreniez les différents êtres de raison. C'est important de saisir ces différents êtres de raison. Vous avez un troisième être de raison, très facile à comprendre, le raisonnement. La dialectique est-elle un être de raison? Très beau sujet. La dialectique est-elle un être de raison? Le syllogisme est un être de raison. La dialectique est-elle un être de raison? Ou est-ce que la dialectique n'est pas un être de raison? Donc vous avez les différents êtres de raison. Hein. Donc j'espère que maintenant vous pouvez saisir un tout petit. Quand on dit être de raison, on dit quelque chose que l'intelligence est capable de saisir, quelque chose qui provient d'intelligence et qui demeure dans l'intelligence. Alors on verra mieux comment l'être de raison n'est pas le concept, comment l'être de raison n'est pas le nom. Et ça, il faut voir ce que c'est que le concept, je ne veux pas le voir tout de suite. Parce que c'est pour entrer un tout petit peu dans l'analyse critique que nous allons faire ensuite, pour que nous comprenions mieux ce que c'est que cet être de raison. Et ce qu'il faut, c'est saisir que l'être de raison détermine vraiment. Oui, c'est l'objection que feront les scolastiques en disant la logique est réelle. La logique existe. Personne ne l'a nié. C'est une science et un art qui existent. Or, la logique regarde l'être de raison. Mais l'être de raison n'est pas un être réel. Donc, la logique n'est pas réelle. Oui, là aussi, c'est très joli, ça. Très joli, par ça. Oui. La logique regarde l'être de raison. Or, l'être de raison n'existe pas. Il n'existe pas dans le réel. Et l'être de raison, cependant, spécifie, détermine une véritable science. Comment une véritable science peut-elle avoir comme objet un être de raison? Réfléchissez là-dessus, vous me réfléchissez. Comment une véritable science, la logique est une science, quoi. Ça veut dire que la logique n'existe pas, vous verriez. Hein. Vous n'êtes pas en face de certains logiciens, nous tracasserons. Hein. La logique existe, c'est une science. C'est même une science qui se défend bien, qui se porte bien. Or, cette science, vous me dites qu'elle est déterminée par l'être de raison. L'être de raison n'existe pas. Ce qui est un être de raison, il n'existe pas. Donc, comment se fait-il que quelque chose qui n'existe pas donne une réalité? C'est ex nihilo, alors. Hein? Donc, c'est à partir de rien que vous réalisez l'être de raison. Hein? Vous voyez comme c'est délicat. Alors, il faut bien comprendre que l'être de raison, ce n'est pas rien, ce n'est pas le néant. Ce n'est pas le néant. L'être de raison, on l'appelle ens rationis, hein, Et on a raison de dire l'inspirationnisme. Je comprends très bien qu'on dit l'inspirationnisme. C'est pas si mal dit, quoi. L'inspirationnisme s'oppose à ex naturae. Ex naturae, c'est la réalité physique. Vous êtes une réalité physique. Vous ne direz pas, vous êtes un être de raison. Si vous étiez un être de raison, vous devriez être porté dans une intelligence humaine et n'exister que dans une intelligence humaine. C'est ça le propre de l'être de raison. Donc on oppose ex rationalis et ex naturae, l'être de la nature et l'être de raison. Et il faut distinguer encore l'être artificielle, ens artificiale, c'est-à-dire l'œuvre d'art. L'œuvre d'art, l'être de raison, l'universel, et le point de vue de la réalité, l'ens naturel. Vous avez le chien, l'édor, ens naturel. Vous avez l'ens rationis, le mot chien universel, ou la définition du chien que vous donnez, c'est un ens rationis. Et l'être, l'œuvre d'art, vous avez dressé ce chien. C'est un chien dressé, un chien de garde. C'est admirablement ce qu'il doit faire comme chien de garde. Vous avez donc trois aspects différents par rapport au même chien. Vous pouvez regarder le chien en tant qu'il existe, le chien en tant qu'il est pensé et qu'il est dit universellement, et le chien en tant qu'il est dressé. Mais je vous dis ça pour que vous puissiez exercer un tout petit peu votre intelligence, pour voir que la logique porte sur quelque chose qu'on dit ens rationis, mais qui n'est pas rien. C'est une pure détermination. Les scolastiques, les grands scolastiques, Jean Saint Thomas dira que ens rationis, c'est purement esse objectivé. C'est une très belle expression qui est assez esse objectivé. Ainsi objectivé, c'est-à-dire une réalité qui n'est qu'objective, qui n'est qu'objet, que je peux seulement saisir, seule mon intelligence la saisit. Ce qui n'est pas l'intelligence ne la saisit pas. Et c'est pour ça, pour tout ce qui n'est pas l'intelligence, intrationniste, c'est quelque chose qui n'existe pas. Mais pour l'intelligence, c'est quelque chose qui existe. Et c'est pour ça que cet essai objectivé, ce pourrait essai objectivé, ce pur être objectif, c'est l'être de raison. Ce pur être objectif, ce pourrait, ce qui n'est qu'être objectif, ce qui n'est qu'objet, vient déterminer une réelle science qu'on appelle la logique. Donc, vous voyez bien comment la logique est quelque chose de complexe. C'est pas simple du tout. Elle est à la fois un art et une science. Elle est un art qui dirige l'intelligence dans le raisonnement. Elle est une science qui saisit quelque chose qui peut se faire l'intelligence.
Une lettre
inconventionnelle. Un être inconventionnel, je ne le ferai pas ici, c'est le concept. Je prends l'exprès ici seulement. On verra, c'est déjà assez, il ne faut pas en fourrer trop. Je n'oublie pas, je fais le cours pour la propédeutique. Alors, je fais ça pour que petit à petit on arrive à préciser certains aspects essentiels qui sont nécessaires à préciser. Mais j'aime mieux garder l'être intentionnel pour après. Le concept. On va vite le voir, ce n'est pas cette fois-ci, mais la fois prochaine. Alors, j'espère qu'on n'aura pas oublié ens naturae, ens rationis, l'œuvre d'art. Ça, vous pouvez tous savoir ça. Il faut connaître ça. C'est quand même des déterminations très importantes. Dès qu'on veut connaître un petit peu la réalité, on peut tout de suite immédiatement ces distinctions-là, qui sont des distinctions tout à fait fondamentales de la réalité. Vous voyez ? Bon, alors continuons. Après qu'on a vu que l'ens rationis, l'être de raison, avait différents aspects et déterminait une science propre, qu'on appelle logique. La logique regarde l'être de raison. C'est très intéressant de voir. La logique apparaît à partir de la naissance de l'être de raison. Et cet être, c'est un être purement objectif. C'est pour ça que c'est si propre, la logique. Il y a des gens qui aiment énormément la logique parce que ça ne salit pas les mains. C'est très, très propre. C'est purement objectif, et c'est tout à fait du nécessaire. Tandis qu'évidemment, dès que vous êtes dans un art mineur, vous salissez les mains, ça c'est sûr. Tandis que la gîte, non. Une cuisine purement intérieure, où les murs sont toujours propres. N'est-ce pas ? Parce que c'est toujours l'intelligence qui réfléchit sur elle-même, et qui réfléchit sur cette petite cuisine qu'elle fait. L'intelligence fait une cuisine. Le terrible, c'est quand elle ne s'en aperçoit plus. Alors elle continue sur la cuisine indéfiniment. Alors c'est la cérébralisation qui est une maladie, qui est l'intelligence qui tourne toujours, toujours, toujours indéfiniment. Il n'y aurait pas de cérébralisation s'il n'y avait pas d'être de raison. La cérébralisation provient d'être de raison. Ce qui permet de comprendre comment l'intelligence peut tourner indéfiniment. Comment on peut être fou et rester logique. C'est extrêmement connu. Ce théâtre italien, vous savez, qui montre ça admirablement. Admirablement quelqu'un qui peut être fou et qui reste logique. De toute façon, on en rencontre toujours. Et plus vous êtes fou, plus vous êtes logique. C'est extraordinaire, ça. Pas toujours, hein, mais pas toujours. Parce que quelquefois, il y a un irrationnel. Mais ce qui est très curieux, la folie, c'est quoi ? La suppression du contact avec le réel. Donc vous êtes dans l'imaginaire. Mais l'intelligence peut continuer de marcher dans l'imaginaire. Et alors, l'intelligence réfléchit sur son propre cheminement et relie tout le temps antécédents et conséquences des différents aspects. Alors, on a une logique qui tourne indéfiniment sans plus aucun fondement. C'est curieux, c'est très curieux. On voit très bien, et ça tient à l'être de raison. C'est ça que c'est si important de saisir l'être de raison. C'est très, très important. Parce qu'alors, comme ça, vous pouvez vous être un peu lucide. Et voir la cérébralisation qui commence et dire « Ah, de là, je ne veux pas une cérébralisation, hein, je ne fais pas de la philosophie pour devenir un cérébral, ce serait gênant. Je fais de la philosophie pour mieux constater le réel. » Alors, l'extratonie, c'est très bon, c'est une très bonne purge. Parce que l'être réel, oui, il faut très bien ce que c'est, comparativement à l'extratoniste. Donc, si vous ne voyez pas la distinction, ben, vous comprenez les deux. Au bout d'un certain temps, vous croyez que tout ce que vous pensez est réel. Il y a dans les choses que vous pensez quelque chose de réel, et puis il y a des choses qui ne sont pas réelles. Il y a des choses que vous faites vous-même. Alors si vous le coupez du fondement, vous voyez, voilà comment ça commence la cérébralisation. Alors à ce moment-là, le moule a un café qui tourne indéfiniment sans qu'il y ait de grain encore à mouiller. Et ça continue de tourner. C'est ça la cérébralisation. Eh bien ça provient du fait qu'il y a un être rationnel. Bon, ceci, c'est tout à fait élémentaire, mais c'est absolument nécessaire. Il faut connaître ces choses-là, autrement on ne peut pas continuer. Alors, à partir de là, nous pouvons comprendre comment va se diviser la logique. Vous voyez, je fais grâce ici, parce que je crois que ça nous entraînerait trop loin, et que nous n'avons quand même pas beaucoup de temps. Alors, je vous fais grâce ici des divers moments dans le développement de la logique. Mais je crois ça très important. Alors, je vous renvoie au Père Borenski. Alors, je vais apporter le livre pour que vous puissiez vous disputer ce livre, n'est-ce pas, et voir comment vous pouvez voir ces différents moments. C'est quand même très intéressant, différents moments dans le développement de la logique. Pour voir comment la logique, qui est au point de départ un organone, progressivement va devenir une partie de la philosophie, déjà avec saint Thomas d'une certaine manière, en disant philosophia rationaliste, et comment progressivement la logique va devenir la philosophie. Dans une certaine perspective, la logique devient la philosophie. Elle devient une philosophie universelle, devient une science universelle, et elle devient ce qui va permettre d'unir, d'être au-delà du réalisme, d'idéalisme, et donc de faire comme une espèce d'œcuménisme merveilleux de toutes les parties de la philosophie. Vous pouvez les unir. Ça, je ne regarde pas ça ici. Je voudrais tout de suite maintenant regardez les divisions de la logique. Nous avons déjà un petit peu touché ce problème, mais alors j'y reviens un instant. Les divisions de la logique. Comment diviser la logique ? Vous voyez, c'est le dernier moment hein, de l'introduction. Après, on entrera directement. La fois prochaine, on entrera dans la logique. Et alors, avant d'entrer dans la logique, je vous montrerai qu'il y a certains présupposés absolument nécessaires. N'est-ce pas ? Et donc, on fera un peu de critique. Mais il est nécessaire actuellement de voir la division de la logique. Je me place toujours dans la perspective aristotélicienne et celle de saint Thomas. Ben, je vous le dis pour que vous compreniez bien, parce qu'il y a d'autres manières de diviser si j'étais dans d'autres perspectives. Et je me place ici dans cette perspective-là de la philosophie aristotélicienne. Bon, je vous disais tout à l'heure, Aristote donne des œuvres différentes de logique, mais Aristote ne réfléchit pas sur l'ordre de la logique. Donc c'est la pagaille. Donc il fait une succession d'œuvres, et c'est tout. Saint Thomas est le premier à ordonner la logique. Peut-on prendre l'ordre de Saint Thomas? Est-ce que l'ordre de Saint Thomas est légitime? Ou est-ce qu'il n'est pas légitime? Nous devons le critiquer de Saint Thomas de temps en temps, quand je le regarde par rapport à Aristote. Saint Thomas est avant tout un théologien. Alors, le philosophe, de temps en temps, peut critiquer le théologien en disant il fait ça parce qu'il est théologien, ou est-ce qu'il fait ça parce qu'il est philosophe? Autrement dit, devant cette division, cette systématisation que Saint Thomas fait, est-ce que Saint Thomas l'a fait en tant que théologien? Ou est-ce qu'il l'a fait en tant que philosophe? Alors, je dirais, est-ce que la foi modifie ma logique? C'est intéressant. Ma foi est reçue dans mon intelligence. Ma foi ne modifie ma foi chrétienne. Parce que je parle à des propédeutes, donc je parle à des théologiens, donc c'est présupposé qu'il y a la foi. N'est-ce pas? Bon, alors, est-ce que la foi modifie ma logique? Ou est-ce que la foi est totalement en dehors de la logique? On a déjà touché un tout petit peu ça, la dernière. Hein? Alors, je dirais ceci, c'est important. Ça. C'est que la foi ne modifie en rien mon conditionnement intellectuel. Elle ne modifie pas la structure de mon intellect. Donc, la foi ne modifie pas ma logique, puisque la logique est au niveau du conditionnement. Je ne peux pas dire qu'il y a une logique de la foi. Quand vous dites ça, c'est une expression métaphorique. Il n'y a pas de logique de la foi, je regrette. Il y a une logique des croyants, mais pas de la foi. Il y a une logique des croyants parce qu'ils sont des hommes. Alors, il y a une logique des hommes. Vous voyez, mais pas de la foi. Donc c'est métaphorique. Au sens strict, la foi est en dehors de la logique. Et vous voyez tout de suite pourquoi. Parce que la foi implique un absolu d'un lien avec la vérité première qui se révèle à moi. Si la foi est un absolu qui me lie à la révélation, à la vérité première qui se révèle à moi, en passant par la parole de Dieu, la foi comme telle, dans ce qu'elle a de plus profond, n'a pas de logique. Mais la foi dans la mesure où elle se sert de la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle, est soumise au conditionnement humain et donc peut impliquer une logique. Oui. Mais ce n'est pas une nouvelle logique, c'est la logique de l'homme, tout simplement. La foi ne détruit en rien mon comportement humain et donc la foi n'apporte pas une nouvelle logique. Et la foi ne détruit pas ma logique. Donc, quand Saint Thomas commente Aristote pour essayer de comprendre la systématisation de la logique, Saint Thomas ne peut le faire qu'en tant que philosophe. Il ne peut pas le faire en tant que théologien. Parce que la foi n'apporte pas une nouvelle logique. Donc, ce raisonnement de Saint Thomas, il le fait en tant que philosophe. Donc, je peux le regarder en tant que philosophe. Je dirais attention à cette distinction comme ça. Parce que, en réalité, est-ce que nous ne devons pas dire ceci? L'intelligence est premièrement jugement. Et le premier aspect de la logique, c'est d'une certaine manière le point de vue de la proposition. La logique est une logique des propositions. Cette proposition est toujours donnée dans un jugement. Première chose que je peux constater, c'est une proposition. Pierre et Gramel. Je prends l'écriture, Dieu est amour. Quand je dis Dieu est amour, c'est une proposition, c'est une affirmation. Et donc, il y a toujours prédicat et sujet. Prédicat à Dieu, sujet amour, qui est l'attribut de l'un à l'autre. Et j'identifie l'un à l'autre. Je dis Dieu est amour. Donc je fais l'unité entre les deux. Donc c'est une proposition, ça. Une proposition affirmative, une proposition simple, une proposition catégorique. J'affirme directement ça. Cette proposition, puisqu'elle implique prédicat et sujet, elle n'est donc pas première. Elle est toujours deux, il y a toujours deux termes. Donc si je veux aller plus loin, nécessairement, je dois me demander comment sont nés ces termes. Puisque le propre de la proposition, c'est de les unir. Si le propre de la proposition, c'est de les unir, ce n'est pas de les découvrir. Il faut donc, avant le jugement, la découverte de ces termes. La découverte de ces deux termes qui vont être unis dans la proposition. Parce que la proposition n'est jamais première. Il faut donc une découverte de quelque chose qui est antérieur au jugement. Ce quelque chose qui est antérieur au jugement, c'est ce que ça donnera après l'appréhension. Ah, c'est sûr, c'est la découverte de termes indivisibles. Donc c'est bien l'appréhension. Mais j'aime mieux ne pas la mettre avant le jugement pour ne pas faire croire que le jugement, c'est la somme des appréhensions, ce qui serait plus juste. Donc, vous allez découvrir les termes indivisibles, antérieurs au jugement. Ces termes indivisibles, antérieurs au jugement, ont, au point de vue logique, ceci de particulier, c'est qu'on les divise l'universel. Alors, je ne dirais pas la logique du concept, je dirais la logique de l'universel. Et je crois ça beaucoup plus juste. Marquis Saint-Thomas n'a jamais dit la logique du concept, hein. C'est les successeurs. Et c'est quoi de chess, n'est-ce pas? Les c'est quoi de chess, on dit ça. Donc ceux qui sont venus après. Mais Saint-Thomas n'a jamais dit ça. Donc, c'est simplement pour bien préciser logique de l'universel, logique de la proposition. Et troisièmement, la logique du raisonnement. Là, ça va. La logique du raisonnement, la logique de la science, la logique de la dialectique, et ainsi de suite. Toutes les autres parties, la logique de la rhétorique. Donc, je vois bien que de fait, je suis bien en présence de trois grands aspects de la logique. La logique de l'universel, la logique de la proposition, la logique du raisonnement de la science. Et il faut bien préciser ces trois aspects de la logique. J'aime mieux dire ça, logique, on verra pourquoi. J'aime mieux dire logique de l'universel et pas logique du concept. Regardez dans Maritain, il dira logique du concept. Quand il veut mieux dire logique de l'universel, pour qu'il n'y ait pas de confusion. Il n'y a pas de confusion entre et bien comprendre que c'est la logique de l'universel qui est au fond en cause. Et que cette logique de l'universel, c'est pas du tout la proposition, c'est pas l'addition de l'universel avec l'universel, c'est autre chose. Il y a une structure différente. Donc, on va diviser ces trois parties. Et alors, nous allons voir maintenant, à partir donc, de la fois prochaine, la logique, et je prendrai tout de suite la logique de l'universel, parce qu'elle est fondamentale. Et que dans l'ordre de la logique, je devrais commencer, si j'étais tout à fait logique, je devrais commencer par la logique de la proposition, avant la logique de l'universel. Mais comme nous faisons ensemble logique et critique, je regarderai la logique de l'universel. Je vais être conscient. Vous voyez ? En critique, ce qui est fondamental, c'est l'universel. Ce qui est fondamental, c'est le concept. En critique, c'est découvrir ce que c'est que le concept. En logique, la première chose que je découvre, c'est la proposition. Donc, c'est le livre de l'interprétation. Et je vois que l'interprétation de ce que représente la proposition implique nécessairement l'universel. Et donc, si je suis obligé d'arriver à la logique de l'universel, ayant vu la logique de la proposition. Alors, comme nous faisons à la fois critique et en même temps logique, la fois prochaine, nous regarderons en premier lieu la logique de l'universel. Alors là, nous nous amuserons un peu pour découvrir bien ce que c'est que le concept, bien ce que c'est que l'universel.